Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
J'étais fixé sur les solutions et pas sur les problèmes que je voulais résoudre. Et en fait, tu te fais plein de plans. Je vais créer un Deliveroo des mamas, je vais créer un restaurant, etc. Mais en fait, ça n'a pas de valeur dans le sens où ce qui compte, c'est le problème que tu veux résoudre.
L'invité du jour est Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama. Meet My Mama, c'est une entreprise sociale qui a pour objectif d'aider à l'émancipation financière de femmes réfugiées ou issues de l'immigration grâce à leur talent culinaire.
En fait, ces femmes-là, c'est les personnes qui représentent le mieux l'universalité et qui sont le mieux capables de porter un pan. Parce qu'une maman, c'est un personnage universel, commun à tous. On lui porte un amour qui est très spécifique.
Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Youssef.
Alaikum salam.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va, alhamdoulilah. Comment se passe le ramadan?
Ça va, alhamdoulilah, ça se passe. on essaye de le faire du mieux qu'on peut et voilà. Et toi, ça va?
Ouais, ça va. Toujours en confinement. Je sais pas si c'est plus facile en termes de jeûne. Enfin, je pense pas qu'il y a plus de difficultés, c'est juste que l'ambiance est un peu différente.
Ouais,
ça manque un peu.
Très, très différente. Mais tu travailles? Je t'ai quand même pas posé cette question.
Oui, je travaille en télétravail.
T'es en décalage?
Ouais, je suis en décalage horaire. Du coup, je commence à travailler très tôt, enfin, après le soir. Après la prière, je commence directement. Et ouais, je commence beaucoup plus tôt, genre à 6h. À 6h, je suis déjà au travail. Mais ça va, ça me met un petit rythme matinal.
Bravo.
Alors Youssef, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer?
Ouais. Je m'appelle Youssef, j'ai 32 ans. Alors moi, j'ai grandi en Auvergne, dans une ville qui s'appelle Thiers. Je suis d'origine marocaine et j'ai cofondé l'entreprise sociale qui s'appelle Meet My Mama, qui aide des femmes immigrées ou réfugiées à vivre de leur passion pour la cuisine. On fait ça avec trois grandes activités. La première, c'est fédérer la plus grande communauté de mamas, donc de femmes passionnées par la cuisine, qui veulent en vivre. Ensuite, on les forme et on les accompagne pour qu'elles puissent se professionnaliser. Et derrière, on les aide à commercialiser leur savoir-faire via une plateforme traiteur. Pour en revenir un peu à mon parcours, donc c'est très très classique, très banal. J'ai eu un bac L, ensuite j'ai fait un petit bout de chemin en fac d'histoire parce qu'au début de mon parcours je voulais être reporter de guerre. J'ai fini en école de commerce. Donc tu vois, et pourtant j'ai l'impression avec mon métier actuel et avec les mamas d'être un vrai reporter. Dans son sens, je suis confronté à la réalité de plein de femmes, de cultures et de parcours différents, et c'est extrêmement enrichissant, même si c'est pas très simple tous les jours. Donc une fac d'histoire, ensuite une école de commerce où je me suis formé un peu à l'entrepreneuriat, au marketing, et derrière j'ai un peu bossé pour des acteurs de l'agroalimentaire et pour une start-up de 2012 à 2015. Donc c'est là-dedans, c'est comme ça que je suis tombé un peu dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
C'est ça. Ouais, c'est un acteur qui est devenu un spécialiste européen de la relation client, la relation client digitale. Donc, je suis arrivé donc c'était fondé par deux personnes qui sont en fait des amis, mais je suis arrivé, j'étais le premier salarié, je devais rester 3 mois pour filer un coup de main, quoi. C'était le début d'une startup. Je suis resté 3 ans pour les aider à sortir le projet de terre, à un peu structurer le début. Puis ça a bien grandi. Aujourd'hui, c'est un beau bébé. Je crois qu'il y a une petite centaine de personnes un peu partout en Europe. Donc ça, c'est chouette. Et donc ça, j'ai fait ça jusqu'en 2015. Et puis, j'ai arrêté cette expérience. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai envie de construire autour d'un projet autour de ces femmes que nous, on appelle Mama, chez Meet My Mama. Ça vient évidemment de ma mère. Chez nous, dans notre culture, et notamment dans notre religion, la place des femmes et la place de la maman et capital. Et donc, du coup, moi, ma maman, c'est beaucoup pour moi. Et en fait, j'ai été marqué très tôt par plusieurs choses chez ces femmes-là. C'est qu'elles avaient la capacité à éduquer et à fédérer des personnes au-delà de leur culture et de leurs différences. C'est notamment le cas dans les quartiers populaires. Quand on a vécu un peu dans les quartiers populaires, elles sont très, très présentes dans l'éducation. Elles ont un rôle social qui est hyper important. Et ça m'a marqué, sa capacité à fédérer, à trouver les bons mots, à être inspirante et à mettre de l'ordre dans la boutique. C'est quelque chose qui m'a marqué. Le deuxième point, c'est que elles ont souvent un talent culinaire assez unique qui ouais. Quand tu poses avec elles, qui se transmet de mère en fille depuis des décennies, des siècles. C'est vraiment les dernières gardiennes d'un vrai patrimoine culturel et culinaire. C'est vraiment, quand tu parles un peu cuisine, mais la cuisine, c'est un truc c'est ce qu'on fait le plus, ouais. Manger. C'est un vecteur qui est très fédérateur. Et quand tu t'intéresses et tu leur demandes un peu des recettes, tu rentres dans la culture d'un pays et dans l'histoire d'un pays. Et c'est ce qui m'a rapidement, moi, captivé. Et ce qui m'a marqué, c'est que ces femmes-là, ben, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains. Elles ne se rendent pas compte qu'elles pourraient vivre de cette passion et qu'elles pourraient partager ça à plus de personnes. Et surtout, ça, c'est une première indignation. La deuxième indignation, c'est que souvent, ces femmes-là, elles sont invisibilisées, on ne les voit pas, alors qu'elles jouent un rôle majeur, on ne les considère pas, on ne valorise pas leurs efforts, alors qu'elles sont pourtant assez moteurs dans ce que les gens appellent le fameux vivre ensemble, mais elles sont moteurs dans l'éducation de plein de gens, et ça, on ne reconnaît pas. Et donc, du coup, quand on a monté, j'avais toujours ce truc-là, en dire comment je peux aider ces femmes-là, grâce à leur talent pour la cuisine, à être considérés comme des rôles modèles pour la société. Et donc ça, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais c'est vraiment la raison d'être d'ailleurs de Meet My Mama. Donc quand j'ai quitté Critiseur, j'ai tout plaqué. Donc à cette époque-là, j'étais responsable des opérations. Donc, c'est un nom assez pompeux, mais j'avais quelques responsabilités. Mais je me suis dit, ça fait des années que je parlais à plein de gens de cette histoire avec les mamas, etc. Qu'à un moment donné, les gens ont fait un truc. Et donc, à un moment donné, je me dis, je vais le faire. Donc, je suis parti de cette entreprise, Critiseur. Et juste avant de me lancer, je suis parti un peu en Asie du Sud-Est. Donc, c'est là où j'ai eu une parenthèse, notamment en Malaisie, où j'ai bossé pour une entreprise sociale, plutôt spécialisée dans l'éco-responsabilité. Donc, qui s'appelle BGBG, où ils produisent des objets, des sacs à main, en plus des sacs à main de luxe, à partir d'objets, de matériaux trouvés dans des déchetteries. Ils donnent une seconde vie à tout. Et derrière, c'est aussi un projet qui s'est beaucoup développé en Malaisie. Donc, c'était important pour moi d'aller voir un modèle existant d'entrepreneuriat social en Asie. Mais je suis allé en particulier en Malaisie, à Kuala Lumpur, parce que je voulais voir comment était la food. On a dit Kuala Lumpur, c'est une sacrée capitale culinaire parce qu'il y a un tel brassage de culture, mais aussi de religion.
C'est clair.
Que tu trouves de tout. Et évidemment, c'est la même chose à Singapour. J'ai pas eu la chance de faire Singapour, mais t'as aussi
C'est similaire.
C'est similaire, un tel brassage. Mais c'est aussi parce que ces entreprises food, elles sont portées souvent par des femmes. Et ça m'intéressait de voir comment elles opéraient et comment, et ça a confirmé pas mal de mes hypothèses, que c'était un vrai levier business pour elles, mais c'est aussi comme ça qu'elles rayonnaient, qu'elles s'épanouissaient. Donc j'ai profité de cette expérience pour faire ça. C'était aussi l'occasion pour moi de découvrir la religion, mais dans un autre pays, dans un autre contexte, et c'était hyper enrichissant, évidemment. L'Asie du Sud-Est par rapport à ça, j'ai pris le temps après moi d'aller au Cambodge et en Indonésie. Voilà, et donc à mon retour, je suis revenu dans mon Auvergne natale et j'ai commencé à coucher sur le papier ce qui allait devenir Meet My Mama. Donc voilà un peu pour mon parcours.
très bien résumé, merci beaucoup. Donc, du coup, tu disais que tu as quitté Citizer pour fonder Meet My Mama. Comment est-ce que ça a commencé?
En fait, tout est désordonné. À l'intérieur de toi, c'est vachement désordonné. L'entrepreneuriat, c'est quand même il y a une sacrée phase d'introspection, mais d'ailleurs, ça dure tout le temps où il faut quand même bien se connaître pour bien identifier les différentes émotions qui t'habitent et faire la part des choses entre l'émotionnel et le rationnel. C'est pas simple hein, au début. En fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai un peu ce truc-là qui n'est pas aussi bien formalisé que je peux le formaliser aujourd'hui, mais qui est là, je peux faire un truc autour de ma maman et autour de ces femmes-là. Et ça, cette espèce de truc, c'est propre à moi, ça te ronge. Tu te dis, mais quand est-ce, purée, quand est-ce que je vais faire un truc? Comment? Et évidemment, à chaque fois, comme tu fais tout dans le désordre, tu imagines des solutions. Tu te dis, je vais créer un restaurant, je vais créer un food truck. J'imagine plein de choses, mais au final, ce sont des réflexions que tu nourris. Moi, ce qui m'a beaucoup, un de mes premiers déclics, c'était dans une expérience où j'étais stagiaire. C'était chez Innocent, les smoothies. Donc j'y étais, et c'était hyper intéressant parce que quand j'y étais, c'était en 2010, il me semble, et c'était encore une PME. Enfin, la boîte était, ils ouvraient à peine les filiales en Europe, donc moi j'étais en France. Et on était 15, donc c'était encore un état d'esprit très entrepreneurial. Et ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'étais mon bureau de stagiaire. Donc le vendredi, j'avais mes collègues et j'avais aussi mes boss et même le grand boss parfois qui venait en me demandant c'était quoi mes plans le week-end. Et en me demandant si j'allais rentrer, parce que c'était à Paris, en me demandant si j'allais rentrer chez moi en Auvergne. Et c'était souvent le lundi que je savais pourquoi ils me demandaient ça, parce que le lundi, quand je revenais, la première question qu'ils me demandaient, c'est est-ce que ta mère t'a filé des Tupperware? Est-ce qu'elle t'a filé des choses à manger? Parce qu'en fait, ils voulaient juste me raqueter ce que ma mère me cuisinait, parce qu'évidemment, quand je rentrais les week-ends, ma mère, me faisait plein de repas pour tenir la semaine. Et donc, c'était hyper intéressant, parce qu'à chaque fois, c'était évidemment hyper drôle, parce qu'à chaque fois, ils étaient là à me demander. Allez me demander. Bah, au début, ils étaient timides, mais après, ils regardaient un peu plus ce que je ramenais. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au repas du lundi, midi, bah, il y avait les plats de ma maman et il y avait vraiment tout le monde. Et des discussions, il y avait des discussions et ça allait beaucoup plus loin que la food que préparait ma mère. Ça allait, on me posait des questions sur ma culture, sur ma mère, sur l'histoire qu'il y a derrière ces plats-là. Et c'est là où c'était un premier déclic où je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que ces gens-là, qui sont pas du tout à la base de mon horizon social, s'intéressent à la cuisine de ma mère, mais aussi à l'histoire de ma mère et l'histoire de ma culture. Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi des gens comme ça, pourquoi il n'y a pas de pont qui existe? Et c'est là où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à construire autour de ces cuisines du monde, autour du fait maison, du bien manger, parce que c'est le premier sujet, mais autour aussi des cultures du monde et des histoires que portent ces femmes-là. Et qu'en fait, ces femmes-là, c'est les personnes qui représentent le mieux l'universalité et qui sont le mieux capables de porter un pan. Parce qu'une maman, c'est un personnage universel, commun à tous. On lui porte un amour qui est très spécifique. Et donc, il y avait quelque chose à construire. Donc, c'était vraiment un déclic. Et après, bah, ça s'est renforcé parce qu'à chaque fois que je parlais, il y a peut-être un truc à faire, etc. Et à un moment donné, bah, je me suis dit, écoute, pendant mes années chez Critiseur, j'essayais de regarder ce qui se faisait, j'essayais de coucher sur un papier, tu vois, ça part d'un truc hyper à l'intérieur. Et après, tu vas commencer à formaliser les choses. Mais quand tu formalises, tu fais pas ça dans le bon ordre. Donc moi, après, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, je suis parti. Et je suis parti en Asie me nourrir. Et ça, c'est toujours important de se nourrir. Et quand je suis revenu, en fait, j'ai essayé de recoucher les choses. Et au début, tu fais vraiment des erreurs d'entrepreneur qu'il ne faut pas commettre.
Juste pour revenir rapidement sur l'Asie, qu'est-ce qui t'a là-bas impressionné et comment tu savais que là-bas, ça allait être une culture qui allait être bénéfique pour la compréhension?
Moi, je cherchais à aller dans des zones démographiques où, où l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social avaient une vraie valeur ajoutée pour résoudre des problèmes. Tu vois, et l'Asie du Sud-Est cochait beaucoup de cases par rapport à mon projet, parce que la Malaisie, c'est Et Kuala Lumpur, c'est un pays très food. Les solutions qui sont apportées, et notamment la tech, elle est vraiment pour tous. C'est vraiment, on ne crée pas de besoins. On essaie un maximum d'apporter des solutions pour résoudre les problèmes du plus grand nombre. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir du service accessoire, etc. Même si ça émerge de plus en plus un peu partout dans le monde. Mais c'était pour ça que je suis allé là-bas. En Asie du Sud-Est. Et pour en revenir un peu à ce que je te disais juste avant, quand tu formalises, après moi quand je suis revenu en France, c'était hyper compliqué parce que j'étais fixé sur les solutions et pas sur le problème que je voulais résoudre. Et en fait, tu te fais plein de plans, je vais créer un Deliveroo des mamas, je vais créer un restaurant, etc. Mais en fait, ça n'a pas de valeur dans le sens où ce qui compte, c'est le problème que tu veux résoudre. Et donc moi, sur mon parcours, j'ai eu franchement deux chances et c'est des rencontres. La première, c'est que j'ai identifié une structure en France qui s'appelle Ticket for Change, qui en fait accompagne des entrepreneurs sociaux. Et eux, ils ont été hyper importants dans mon parcours parce qu'ils ont sélectionné le projet que j'avais et ils m'ont accompagné pendant 6 mois. Et du coup, pendant ces 6 mois, c'était hyper nourrissant parce que je suis allé à la rencontre d'autres entrepreneurs sociaux un peu partout en France. Et c'est là où j'ai pu mettre de l'ordre dans mon projet. C'est-à-dire que j'ai concentré mes efforts sur la compréhension des problèmes. Donc, je suis allé rencontrer plein de mamas, notamment à Lyon. Plein de mamas où pendant 2 heures, je me suis posé en interview. C'est les meilleures heures de ma vie parce qu'en plus, tu papotes avec une mama et tu manges. Donc, vraiment du bonheur.
Ouais. C'est du bénéfice.
Bah, pose des questions, les questions qui sont liées à ton projet. Pourquoi tu es passionné par la cuisine? Quand est-ce que tu as commencé à cuisiner? Qu'est-ce qui t'empêche de cuisiner? C'est quoi tes rêves? Et c'est hyper nourrissant. Et ça a permis de renforcer la compréhension de mon problème. Il y a cette phrase, un adage qui n'est pas de moi, qui dit « Il faut être amoureux de son problème et pas de sa solution ». Ça, c'est une constante. Et après, la deuxième rencontre qui a été fondamentale dans mon parcours, c'était quelques jours avant que je me lance, à cette époque-là, ça s'appelait Mama's Kitchen, et après, c'est que je lance Mama's Kitchen à Paris, c'est que j'ai découvert sur les réseaux sociaux une initiative similaire à la mienne qui s'appelait Mama Cooking. C'était vraiment mot pour mot ce que moi j'avais en tête.
D'accord.
Et en fait, comme je trouvais qu'elle disait la même chose, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de leur écrire. C'était pas simple parce que quand tu as un projet en tête depuis des mois et des mois et des mois et des années et que là,
c'est un petit bébé.
Il y a quelqu'un qui a une idée similaire, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Et en plus, autre erreur de jeune entrepreneur, tu as peur de leur écrire, tu te fais des films, etc. Puis en plus, je me souviens à cette époque-là, moi, ma page Facebook, il y avait 150 likes et elles en avaient 600. Et je me suis dit, elles ont trop d'avance sur moi. c'est pas possible. Et en final, derrière ce projet-là, qui s'appelait Mama Cooking, donc moi j'avais Mama's Kitchen et elle, ça s'appelait Mama Cooking, il y avait deux jeunes femmes, Donia et Lubna. Et donc je leur ai écrit. Et au final, elles ont accepté de me rencontrer. Et donc, le premier rendez-vous, on s'est rencontrés à Saint-Lazare, donc en face du Burger King. Ça a été notre bureau parce qu'on n'avait pas de moyens, on n'avait rien. Ça a été notre bureau pendant un an. Et en fait, très vite, ce qu'on appelle nous un coup de foudre professionnel ou un coup de foudre à impact social. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et c'est la fusion des deux projets qui a donné naissance à Meet My Mama. Voilà, un peu pour parler un peu de comment c'est venu le projet et comment ça a germé. Et comment on a essayé après de mettre de l'ordre, un peu de mettre les choses dans l'ordre.
Ok. Du coup, l'idée, vous avez exactement les mêmes idées derrière et les mêmes problèmes que vous vouliez résoudre.
C'est ça. Problèmes similaires et valeurs communes et une ambition. L'ambition, c'était très tôt, on avait envie d'aller le plus loin possible avec ce projet, de se dire, en fait, il y a un problème social à résoudre, c'est d'aider ces femmes-là à vivre leur passion, à être valorisées. Il y a un problème sociétal qui est le lien social, le vivre ensemble, mais aussi le bien manger et changer le regard sur des cultures du monde. Et il y a aussi une opportunité business parce que les cuisines du monde et le fait maison est très mal représenté. Donc là, on s'est dit, ben nous, on va essayer de saisir cette opportunité-là et on va essayer de construire un modèle qui va permettre à ces femmes-là de rayonner, mais aussi de bien vivre, de s'y retrouver économiquement. Et c'est ça, cette ambition-là sur laquelle on se retrouvait tous les trois.
Ok, cool. Est-ce qu'on peut entrer dans le sujet de l'entreprise? Comment est-ce que ça fonctionne techniquement?
C'était une sacrée galère au début. Déjà, là, il faut, dans l'entrepreneuriat quand même, quand tu démarres avec pas de moyens, tu bricoles. Donc au début, quand on a démarré l'aventure, nous on avait pas de labo culinaire, rien. On avait juste le problème qu'on voulait résoudre. Donc au début, on a imaginé une première solution qu'on appelait les restaurants éphémères. Donc grosso modo, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir des restaurants qui fermaient le soir et le week-end et on leur disait laissez votre cuisine, il y a une mama qui va prendre le contrôle. Donc, les restaurateurs, ils ont joué, aussi hallucinant que ça puisse paraître, et on organisait ce qu'on appelait des dîners rencontres ou des brunchs du monde où tu as une mama qui venait dans le restaurant, qui cuisinait et qui proposait une expérience assez unique à des gens qui s'inscrivaient sur les événements sur Facebook. Donc, on a démarré, on a fait ça avec le Sri Lanka, la Malaisie, avec la Syrie, avec le Maroc, avec le Cameroun. Donc, on faisait cuisiner des femmes immigrées, réfugiées, expatriées, etc. Et c'était hyper intéressant parce que les gens venaient et il y avait du lien qui se créait. Et surtout, moi, je me souviens toujours de la première avec notre Mama Anita. Mama Anita, c'est une de nos réfugiés chefs. Elle est réfugiée sri lankaise. Et elle était réfugiée en Malaisie, puis elle est arrivée en France. Ce qu'elle m'a dit, la première fois, on a fait son dîner Sri Lanka. Il y avait sa fille, il y avait 30 personnes. Donc, à la fin du dîner, elle a été applaudie. Et le lendemain, elle nous a appelés. Et elle me souvient encore ce qu'elle nous a dit. Elle nous a dit, depuis que je suis en France, donc ça faisait un an qu'elle était en France, bloqué administrativement, isolé, dit c'est la première fois que j'ai l'impression de retrouver ma vie. C'est la première fois que je vois ma fille sourire et elle me dit si je vais réouvrir mon compte Facebook parce que j'ai quelque chose de positif à raconter. Donc c'était aussi ça, ça a validé des choses, ça a validé ce coup de fil que il y avait un vrai sujet pour les mamas et qu'il y avait un impact pour elles. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé le modèle Meet My Mama derrière. Donc, au début, c'était des restaurants éphémères avec ces rencontres. C'était hyper intéressant. Et très vite, en fait, il y a des gens qui ont participé à ces événements-là qui nous ont dit, mais ce que vous faites là, pourquoi vous ne le faites pas en entreprise? Donc, en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé sur le marché de l'entreprise et du marché traiteur. Nous, on ne savait pas du tout ce que c'était qu'un traiteur à la base. Donc, du coup, nous, on a fait un peu le traiteur à notre manière. Donc, le traiteur à notre manière, c'est venir avec des spécialités faites maison du monde entier, donc faites par des mamas, venir avec de la déco qui représente la culture, mais en vrai, et venir aussi avec la mama en entreprise pour qu'elle prenne la parole et qu'elle raconte son histoire. Et donc ça reste la signature traiteur de Meet My Mama. Et donc, depuis, ça a vachement grandi, hein. C'est parce que ça fait un peu plus de bientôt 3 ans qu'on le fait. Et donc, ce premier métier qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle chez nous les voyages culinaires. Donc c'est proposer aux entreprises des voyages culinaires sous format traiteur où les entreprises peuvent commander sur notre site internet des cuisines d'Asie du Sud-Est, d'Amérique latine, d'Islande, d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, d'Afrique, etc. Et à chaque fois c'est soit des petits fours, soit des plateaux repas, soit des plats, et à chaque fois c'est fait maison. À chaque fois, notamment quand il y a des événements, il y a la mama qui se déplace, qui prend la parole et qui raconte son histoire et qui crée du lien en entreprise. Et ça, c'est hyper fort parce que les mamas, elles sont incroyables en entreprise. Enfin, quand tu vois une mama qui débarque avec ses codes à elle en entreprise, tout devient plus humain. Il n'y a plus de notion hiérarchique. Il y a plus de tous ces codes qui sont hyper artificiels, voire même superficiels en entreprise, ils tombent. Parce que la personne qui va déguster la spécialité de la mama, ça va être une Madeleine de Proust pour elle. Elle va se rappeler certaines choses, certaines expériences qu'elle a eues dans son voyage. Elle va avoir envie de partager avec son collaborateur, avec d'autres. Donc voilà. Donc ça a été le premier métier qu'on a développé. Et en parallèle de ça, on a développé aussi un autre métier. Parce que très tôt, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de freins qui empêchaient ces mamas de vivre de leur passion. Si elles n'y arrivaient pas, c'est parce qu'on est dans un secteur, le métier de la restauration, où il y a encore 90% des chefs qui sont des hommes en France. Ça, c'est une réalité. Quand bien même, ces chefs, quand tu te poses un peu avec eux, que tu discutes, ils vont te dire « mais moi, j'ai été inspiré par ma mère, par ma grand-mère, etc. » Deuxième point, pour certaines des mamas, il y a une barrière, la barrière de la langue, mais de manière globale, la barrière culturelle. Donc, elles ne vont pas savoir comment on opère un business en France, comment on s'y prend, etc. Troisième frein, c'est la vie de famille. Donc, elles ont des choix, elles font parfois des choix de vie et parfois, elles sont contraintes de ne pas pouvoir vivre de leur passion parce qu'elles doivent se concentrer sur leur foyer. Et le frein le plus récurrent, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que ces femmes-là ne se rendent pas compte qu'elles ont de l'or entre les mains, qu'elles peuvent vivre de ça. Donc, nous, on a identifié ces principaux freins, il y en a plein d'autres. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire tomber tous ces freins-là pour qu'elles vivent de leur passion. Et donc, pour faire ça, les deux autres métiers qu'on a construits, le premier, c'est de fédérer une communauté de mamas pour qu'elles se retrouvent et qu'elles aient un espace où elles peuvent partager leurs difficultés, mais aussi partager des bons plans, où elles peuvent se retrouver, où elles peuvent être inspirées. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, concrètement, on fait intervenir des chefs, on fait intervenir des personnalités inspirantes pour qu'elles puissent avoir le déclic. Donc ça, c'est la partie communauté. Et puis, le deuxième métier, c'est la formation. Et donc, très tôt, on a créé ce qu'on appelle chez nous la Mama Academy, qui est en fait aujourd'hui une école de cuisine et d'entrepreneuriat dédiée aux mamas. Et dans cette école, les mamas, elles ont des formations à l'entrepreneuriat. Donc vraiment, on prend de A à Z tous les modules. Elles ont des formations au métier de chef et au métier de traiteur. C'est pareil. Donc, elles ont des formations pratiques sur des techniques, sur de la professionnalisation. Et derrière, elles ont un module sur ce qu'on appelle chez nous « more power ». Donc, c'est des modules de développement personnel, de prise de parole en public, de média training, de cours de français, de cours d'anglais, de cours de numérique pour les aider à ouvrir une adresse mail et pouvoir commencer à opérer leur business. Donc, on essaye de les raccorder, de leur donner tout ce qui leur manque. Donc, ça, c'est de grands métiers. Et puis, il y a toute la partie service qu'on leur propose. Et ça, c'est important. C'est qu'on a tout un écosystème de partenaires qui leur proposent des services pour qu'elles puissent vivent de leur passion. Donc, ça va être des places en crèche pour celles qui ont des enfants. Ça va être des partenaires avec des assureurs pour qu'elles puissent se couvrir et lancer leur activité, avec des banques quand elles doivent développer leur activité pour qu'elles puissent trouver du financement facilement. Voilà, un peu comment on opère aujourd'hui l'écosystème Meet My Mama.
D'accord. Vous les aidez un peu à devenir assez indépendantes et avoir des revenus indépendants. Mais du coup, elles restent attachées à Meet My Mama, la plateforme.
Non, l'ADN de Meet My Mama, c'est souvent ce qu'on dit dans les médias. On a cette phrase, c'est faire tomber les étiquettes. Donc, partir de femmes qui sont considérées comme femmes au foyer, immigrées, réfugiées, et les aider à devenir des femmes chefs, entrepreneurs et indépendantes. L'idée, c'est qu'on les outille un maximum pour qu'elles développent des compétences, qu'elles obtiennent des qualifications, etc. Derrière, souvent, elles se retrouvent sur la plateforme Traiteur, mais elles ont leurs propres clients. Et ça, c'est qu'elles peuvent rayonner en toute autonomie. Et même, on a des formations justement spécifiques où on leur donne des formations en communication, comment on communique sur les réseaux sociaux, comment on communique avec son client, etc. L'idée à chaque fois, c'est de les autonomiser au maximum dans ce qu'on leur propose.
Ok. Donc, votre activité principale, c'est être traiteur en fait pour l'entreprise du coup.
Non, on a vraiment faut prendre tout l'écosystème. On a trois grands métiers.
Je veux dire l'activité qui est rémunérée.
Aujourd'hui, tu as deux structures juridiques. Le traiteur, il est hébergé sur ce qu'on va appeler la SAS, donc c'est la partie business. Mm-hmm. Et l'accompagnement et la formation des mamas, c'est sur l'association, ça s'appelle Empower My Mama. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, même l'accompagnement des mamas est rémunéré parce qu'on est en partenariat avec le Pôle Emploi. Et le point aujourd'hui, finance. On est un de leurs prestataires parce qu'ils considèrent qu'on a une vraie expertise sur l'accompagnement et la formation de ce public-là.
Voilà. D'accord. C'est cool ça. C'est ouais, super.
On est content. L'idée maintenant, ça va être de déployer avec le Pôle emploi la solution un peu partout en France, on espère, à partir de 2021.
Ça n'a pas dû être facile d'implémenter ça avec eux. Ça a dû prendre du temps.
Bah, franchement, ça a été parce que sur notre parcours, vraiment, grâce à Dieu, on a la chance de rencontrer des personnes qui ont envie de nous aider. Enfin, si ça ne reposait que sur Donia, Loubna et Youssef, on ne serait pas allé bien loin. Vraiment, c'est parce qu'on a des gens qui adhèrent à ça, qui ont envie de nous aider. Et dans le Pôle emploi, il y a des gens qui ont envie d'aider et qui ont vraiment facilité la vie et qui ont cru en ce qu'on faisait et qui se disent de manière très pragmatique que ce qu'on propose est quelque chose qu'ils ne font pas nécessairement. Mmh. Et ils préfèrent le faire avec nous plutôt que de réinventer un énième programme qui fonctionnerait moins bien que la fameuse Mama Academy.
D'accord. Donc actuellement, Mitmaama, c'est en termes de chiffres, c'est combien de personnes, c'est combien de
tristes. Mitmaama, aujourd'hui, pour te donner des chiffres sur la partie traiteur, on travaille avec 1000 entreprises à peu près.
Okay. De manière ponctuelle ou régulière?
Ouais, certains ponctuels et d'autres de manière plus régulière. Les plus réguliers, c'est en général les entreprises du CAC 40 avec okay. qui on a des clients plus réguliers parce qu'ils ont juste des besoins beaucoup plus réguliers que certaines plus petites structures.
Ils demandent, quand tu dis régulier, c'est quasiment tous les jours, toutes les semaines.
Ouais, une fois par semaine, ça peut être ouais, sur des événements traiteurs. Je vais te donner un exemple. La BNP, je pense qu'on leur on a couvert plus de 100 événements traiteurs déjà avec eux au cours des 18 derniers mois.
Incroyable.
C'est un bon début, hein, sachant que. C'est pas encore une success story, mais quand même, les débuts sont encourageants, mais on a encore du pain sur la planche. Donc, c'est à peu près 1000 entreprises. Il y a à peu près, je pense, un peu plus de 200 000 personnes qui ont déjà goûté les plats de nos mamas en Ile-de-France. On a eu la chance aussi déjà d'opérer à Londres et à Dublin. Ça, c'est avec Google, qui est aussi un de nos clients et un de nos partenaires qui voudrait nous voir. Ils voudraient qu'on les accompagne un peu partout en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait Londres et Dublin. Ça, c'est plutôt pour la partie.
Du coup, vous accompagnez les mamas jusqu'à là-bas, vous les emmenez là-bas?
Ouais, on les a emmenés là-bas. On a emmené des mamas à Balaïda. C'était Mama Soraya, Mama Eva, donc Algérie, Islande. À chaque fois, j'oublie, il y a eu Bator, ça, c'est plutôt le Sénégal. Donc on les amène à chaque fois dans des événements, on en fait d'autres aussi en région, c'est un truc qu'on est en train de regarder comment on se développe en région. Donc ça c'est plutôt la partie business, quoi. Il y a toutes les cuisines du monde maintenant chez Mama. Mm-hmm. Et sur la partie mama, il y a 200 mamas qui sont dans le réseau actuellement et il y a à peu près la moitié qui ont suivi au moins une formation ou qui ont lancé leur business avec Mama. Mm-hmm. Donc ça c'est plutôt cool et là de plus en plus on accompagne aussi des grands groupes dans leur transformation, notamment alimentaire, parce qu'eux aussi ils veulent transformer leurs produits. Et donc, souvent, ils nous sollicitent et sollicitent surtout le savoir-faire des mamas pour transformer leurs produits. Donc, les mamas deviennent des consultantes culinaires, des consultantes R&D. C'est magnifique, vraiment, parce qu'en fait, elles ont un tel savoir sur certaines céréales, sur certains produits, sur certains... en fait, ça a des acteurs de l'agroalimentaire qui viennent nous voir en disant, ben, on voudrait en fait les impliquer dans notre processus de R&D. Donc, c'est aussi un nouveau truc, une nouvelle route qui est en train de voir jour. Et c'est hyper intéressant.
D'accord. La France est couverte en entière ou c'est les grandes villes, les grandes métropoles?
Alors, aujourd'hui, on était très actifs en Ile-de-France et maintenant, on est capable d'opérer de manière un peu plus ponctuelle uniquement sur de l'événementiel. Pas sur du
plateau
tous les jours, sur
des mariages. Les mariages, tout ça.
Alors, on ne fait pas les mariages.
D'accord.
Nous, on est uniquement avec les entreprises, mais des événements d'une certaine taille en entreprise, on peut les couvrir partout en France et en Europe.
Ok. D'accord. Et pour une mama, pour rejoindre la structure, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que c'est vous allez les chercher ou elles viennent à vous? Un mix des deux.
Ben, au début, on bossait avec, et on continue, on est aussi partenaire avec beaucoup d'assos. Il y a aussi, tu vois, par exemple, le Pôle emploi qui redirige des femmes chez nous.
D'accord.
On a eu un peu de presse, donc on a été vachement… du coup, ça a amené des mamas, mais j'ai l'impression que tout le monde connaît une mama. Et ça, c'est… Souvent, il y a l'entourage d'une mama qui nous écrit. Et après, pour rejoindre la... Nous, ça se fait en plusieurs temps. Il y a d'abord rejoindre la communauté. Donc, pour ça, les critères, c'est que déjà, il faut être une femme, première chose. Il faut être passionné par la cuisine, deuxième chose. Et avoir envie d'en vivre à un moment donné. Et surtout, de partager un peu les valeurs de la communauté des mamas. Les valeurs de la communauté des mamas, c'est... grosso modo, de l'ouverture, de la tolérance, de l'authenticité, la volonté d'apprendre, mais aussi de redonner aux autres mamas. Tu vois, c'est là-dessus. Et cette sélection, elle se fait parce qu'en général, quand il y a une mama qui postule, on organise un diagnostic et on fait un diagnostic un peu de ses compétences et de sa situation.
D'armer un plat avec elle.
Ouais, c'est souvent ça. Avant d'un plat, mais tu sais, quand tu invites une maman, elle vient jamais les mains vides. Et donc, du coup, ça nous permet un peu de voir où elle en est. Et derrière, on est capable un peu de prescrire, de se dire qui va être capable de l'accompagner. Parce que parfois, il y a des sujets en perso qui sont tellement compliqués et qui ne rentrent pas, nous, dans notre champ d'action, que derrière, on va aussi les rediriger vers des acteurs qui sont spécialistes. Une fois qu'elles sont dans la communauté, elles participent à des événements. C'est hyper important parce que il y en a certaines, et nous on s'en est rendu compte, qui étaient vraiment isolées, quoi, et qui pour la première fois de leur vie prenaient les transports en commun. Donc on fait aussi des formations de mobilité. On accompagne les mamans dans leur mobilité. C'était pas du tout prévu, mais on le fait. Et donc du coup, une fois qu'elles ont participé à une première batterie de formation, qu'elles ont un peu mûri leur projet, là on va leur proposer la Mama Academy. Et la Mama Academy, derrière, les critères de sélection, c'est vouloir se former, vouloir vivre concrètement de sa passion, vouloir s'engager dans le temps dans une formation. Mm-hmm. Et derrière, une fois qu'elles ont fait la Mama Academy, en général, on leur propose de rejoindre la plateforme Traiteur. Donc, c'est pour ça que je te dis un peu, c'est plusieurs phases de sélection.
Ok. Non, c'est vraiment cool parce que, comme tu dis... Elles pourraient, même si elles s'est arrêtées à la Mama Academy, c'est déjà un succès pour vous, en fait.
Ouais, même celles qui ne veulent pas la Mama Academy, il y en a qui sont dans la communauté et qui ne veulent pas nécessairement se former tout de suite, mm-hmm. mais qui ont un besoin de partager leur histoire, leur culture, leur cuisine et d'échanger. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a créé cette communauté des mamas, pour qu'elles aient un espace d'expression où elles se retrouvent. Et c'est beaucoup de partage, de galères entre elles ou de bons plans. Et puis, c'est génial, tu vois, je suis pas chez Meet My Mama, aujourd'hui, il y a 90 nationalités et c'est là où quand elle partage certaines situations, tu vois qu'il y a vraiment des points communs, qu'elles ont beaucoup plus de points communs que de différences.
Oui. En termes de viande, tout ça, est-ce que vous avez une offre halal pour ceux qui veulent? C'est vraiment sur mesure ou comment ça se passe?
Tout est halal.
D'accord. Tout est halal 100%, que ce soit la BNP qui commande ou... ou entreprise quelconque.
Et on ne fait pas d'alcool.
D'accord, pas d'alcool, super.
Ouais. Mais c'est pas simple parce que, et c'est vraiment, ceux qui, j'espère, les quelques personnes qui vont, ou j'espère les nombreuses personnes qui vont nous écouter, on est preneur de tout d'aide parce qu'en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte que dans la food en France, mais aussi dans le monde, c'est pas simple de mettre en place le halal, de mettre en place une offre sans alcool, c'est vraiment, on perd des deals parce qu'on ne propose pas d'alcool. Tu vois, c'est une réalité. Après, c'est un choix que nous on assume. Mais le halal, ouais, en fait, aujourd'hui, nous, quand les mamas elles travaillent avec nous, on a une charte. Et donc, c'est aussi la même pour les mamas qui sont pas forcément de confession musulmane. Ouais. Et elle respecte cette charte parce qu'elle la comprend, et de manière globale, si nous on a mis le halal, c'est parce qu'on veut rendre un maximum nos produits universels et accessibles à tous, vraiment. Et sur ça, c'est pas que le halal, là on travaille aussi sur la partie cachère, donc c'est aussi un sujet qui est pas simple, qui est compliqué, et on est en train de voir si un jour on sera capable de produire du cachère en respectant les règles religieuses afférentes au cachère et en étant aussi en phase avec nos valeurs. Donc, tout est halal, sans alcool, et voilà. Et ça fait partie de la charte alimentaire, au même titre qu'on recommande aux mamas de s'approvisionner en circuit court, qu'on contrôle aussi les fournisseurs des mamas, qu'on contrôle aussi la traçabilité. Donc voilà, tout ça, c'est un truc qui est assez bien cadré. On a une directrice d'hygiène sécurité alimentaire qui cadre bien les choses, mais on va essayer en sorte que ce soit le cas toujours, Charme.
Ok, super, incroyable. Et du coup, les particuliers ne peuvent pas en fait avoir SS. C'est vraiment juste pour les entreprises. Est-ce que vous comptez vous ouvrir aux particuliers plus tard?
Ouais, on fait un petit peu de particulier. Mm-hmm. Jusqu'ici, sur des événements à titre privé, donc on n'a pas forcément fait les mariages, on a fait les cocktails parfois des mariages. Mm-hmm. À voir dans le futur si on ne va pas s'ouvrir au mariage. Et pour les particuliers, sur le quotidien, tous mm-hmm. les midis, etc. Là, on est en train de lancer une offre, notamment pour l'après-confinement. Qui doit permettre à ceux qui vont reprendre de pouvoir commander des plats de mama tous les jours. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la cantine solidaire des mamas.
Mmh. Est-ce que vous avez une garantie de la qualité est-ce que vous avez des standards en fait pour chaque mama?
Alors les mamas, elles cuisinent toutes dans des espaces normés et certifiés en respect avec les chartes, enfin la charte de la DDPP. La DDPP, c'est la police de l'alimentation.
D'accord.
Et nous, en fait, dans notre aventure, le premier recrutement qu'on a fait, c'est le recrutement de justement Sarah, qui est notre directrice hygiène sécurité alimentaire. Okay. Et ça met beaucoup d'ordre dans la boutique pour standardiser le niveau de qualité. Standardiser le niveau de qualité, c'est s'assurer que les approvisionnements des mamas ils soient bons, c'est s'assurer que les mamas elles cuisinent dans des bonnes conditions. Donc, on a des mamas qui vont cuisiner de chez elles. Mm-hmm. Mais c'est très professionnalisé. C'est-à-dire que elles doivent investir dans du matériel, elles doivent investir dans des normes, dans des aménagements de sa cuisine. Mmh. Du coup, derrière, c'est vraiment une cuisine pro, quoi. Ça ressemble pas du tout à une cuisine comme tu pourrais l'imaginer. Donc, mais on les accompagne là-dessus. Et après, sur le contrôle qualité, ce qu'on fait, c'est qu'on a digitalisé beaucoup de nos contrôles, notamment sur la partie température. Mmh. Genre, contrôle des températures, etc. Contrôle des cuisines à distance. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, on fait aussi des contrôles de cuisine, mais ça, c'est plutôt surprise, en fait. Et là, on va sûrement passer par un prestataire pour industrialiser les contrôles qu'on fait. C'est un enjeu majeur. Et après, sur événement, ce qu'on fait aussi pour contrôler la qualité, c'est que quand on a du personnel de service ou des personnes en interne, en fait, le personnel de service, notamment les maîtres d'hôtel, ils sont obligés de goûter chaque spécialité. Donc, c'est un bon côté. Ils ont une grille d'évaluation. Donc, ils sont capables de nous dire comment sont sorties les pièces, etc. Et évidemment, on prend aussi les feedbacks des clients. Donc, c'est un process où tu as des checkpoints, où à chaque fois, tu as des parties prenantes différentes qui sont capables d'évaluer la qualité de ce qu'on a produit.
D'accord. En termes de service client, toi, tu as de l'expérience. Comment tu gères ça?
Je pense que quand tu es en quelque seul business que tu montes,
c'est important.
Il est capital parce que c'est ton client qui te nourrit. Donc, c'est normal. Donc, et puis, de manière en dehors de ça, quand tu travailles dans la food, tu as envie de faire plaisir et tu as envie que les gens ils soient heureux de ce qu'ils mangent, tu vois. Mmh. Donc, comment on orchestre ça? En fait, déjà, on a une équipe qui est dédiée, qui, avant la réalisation d'une prestation, accompagne vraiment les clients dans le choix et qui explique un peu tout ce qu'on fait, toutes les spécialités. C'est ce qu'on appelle chez nous les conseillers culinaires. Mmh. Voilà, ils accompagnent vraiment le client de bout en bout. Après, sur les événements majeurs, on est aussi présent sur place. Et après, il y a toujours le suivi client après événement. Donc, en général, ça se passe très, très bien. Et dans le cas où ça se passe moins bien, derrière, on essaye de voir au cas par cas ce qu'on peut faire pour pouvoir réparer une éventuelle frustration, tu vois. Mmh. Déjà identifier qui est responsable. Ça, c'est dans une frustration, pas pour sanctionner, pour voir si nous, dans notre chaîne de valeur, il y a un dysfonctionnement. Tu vois, le retour d'un client, c'est pour ça que j'aime bien le mot anglais feedback, parce qu'il est un très beau feedback, c'est il y a le mot feed et c'est nourrissant en fait. Et c'est génial, on a beaucoup de bons retours, etc. Ça c'est bien, c'est nourrissant parce que ça confirme quand même qu'on fait de bonnes choses. Mais les feedbacks un peu moins bons, ils sont quand même géniaux parce que ils identifient un dysfonctionnement dans ta chaîne de valeur et derrière tu peux dire purée, j'ai du boulot à faire là-dessus. Donc c'est déjà précieux parce que c'est en général les feedbacks ils sont gratuits et ça c'est génial. Et ils te permettent de faire
gratuit, progresser ton organisme. Ils peuvent coûter cher.
Ils peuvent coûter cher derrière. Tu ne mets pas en place des solutions, tu peux avoir le risque que ça avance jamais. Et deuxième point, après, nous, on a toute une batterie de possibilités qui peut permettre à un client d'atténuer sa frustration ou sa déception. Mais grâce à Dieu, jusqu'ici, on a eu franchement le problème est. C'est dans la culture de MeetMyMMA, les clients sont quand même naturellement hyper impliqués parce que on a un réseau de clients ambassadeurs qui déjà poussent dans leur entreprise pour que MeetMyMMA soit présent plus régulièrement. Et la contrepartie, c'est aussi qu'on essaie de les impliquer et on va encore plus les impliquer dans les prises de décision de MeetMyMMA. On organise régulièrement des focus group, on organise ces choses-là. Donc, il y a une culture client qui est quand même importante. Et ça, c'est un enjeu majeur parce que si on n'a pas les clients, on n'arrivera pas à résoudre le problème des mamas et notamment l'impact économique des mamas. Donc, c'est pour ça que c'est une partie prenante qui est importante au même titre que nos partenaires. Je sais pas, les transporteurs, par exemple, on sous-traite le transport. Ben, c'est aussi une partie prenante et aussi nous donne beaucoup de feedback sur ce qui fonctionne dans la logistique de MeetMyMMA. Idem avec ceux qui font nos appros. On se nourrit beaucoup de nos parties prenantes et les clients en sont une, mais aussi parmi d'autres.
D'accord, super. Vous avez eu besoin de lever des fonds jusque-là ou vous débrouillez?
Alors, jusqu'ici, on s'est débrouillé un peu par nous-mêmes. Mais alors, comment ça s'est passé? Bah, la partie SAS, elle est autofinancée, donc elle est en croissance organique.
D'accord.
L'association, les deux premières années, elle a été appuyée par des fondations. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir trouvé le bon modèle économique, notamment avec le partenariat avec le Pôle emploi qui vient valider le modèle de formation de MeetMyMMA. Maintenant, nous, nos enjeux aujourd'hui, c'est de grandir, mais de grandir sainement. Mais pour ça, il va falloir financer la suite. Et c'est maintenant qu'on va aller chercher des fonds. En 2020, Inch'Allah, tout va bien, ou en 2021. Donc, on a commencé à rencontrer des acteurs, des investisseurs. C'est hyper intéressant parce qu'il y en a qui sont déjà intéressés. L'idée maintenant, c'est de trouver les bons acteurs qui vont nous aider à bien grandir. C'est surtout ça le sujet.
Il y a des investisseurs à impact sociaux, j'imagine.
Des investisseurs à impact sociaux, des entrepreneurs qui ont déjà assez bien réussi, des bons fonds d'investissement plus classiques ou aussi ce qu'on appelle les family office. Donc, tu vois, c'est une batterie d'acteurs qui. Mais on regarde au-delà de l'argent, c'est leur apport stratégique qui va nous intéresser. À quel point ils peuvent nous amener plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui.
Comment est-ce que vous mesurez le succès de MeetMyMMA? C'est pas seulement financier, j'imagine, c'est pas le côté majeur.
Le côté financier est un indicateur parmi d'autres. Si tu veux. On sait pourquoi on a monté ce qu'on a monté. C'est pour ça que l'importance du pourquoi, de la raison d'être, elle est capitale. Tu vois, et tu mesures, tu as plusieurs indicateurs. Donc, évidemment, l'indicateur financier, on le regarde parce que tout le modèle MeetMyMMA repose sur ces indicateurs-là. Et aussi, c'est le modèle financier qui permet de valider l'impact économique des mamas. Donc, on regarde aussi le chiffre d'affaires qu'on est capable de redistribuer aux mamas. Autre indicateur, on regarde le nombre d'heures de formation qu'on est capable de délivrer. Cet indicateur d'heures de formation, on le croise aussi avec un autre indicateur, c'est le nombre d'heures d'interaction qu'on a avec les mamas chaque semaine. Donc, on mesure le nombre d'heures qu'on passe avec les mamas de manière formelle ou informelle. Pour s'assurer qu'on est toujours connecté à la réalité des mamas. Tu vois, c'est ça. Après, il y a beaucoup, je ne vais pas te décrire le tableau de bord parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs que je suis. Il y a aussi la satisfaction des mamas qu'on va regarder au même titre qu'on va regarder la satisfaction des clients. On va regarder la durée de vie du client sur la partie business, mais on va regarder aussi la durée de vie d'une mama dans l'écosystème MeetMyMMA. Tu vois, et tu C'est un peu, je sais que tu es passionné par la data, donc on va en parler pendant.
Non, mais je vois l'essentiel. Ouais. Mais ça doit être difficile parce qu'il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de métriques à regarder en fait. C'est pas juste le client, c'est vraiment aussi les mamas. Du coup, c'est double.
Ouais, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple du tout. Et en fait, là, on commence, en toute transparence, à structurer. La semaine dernière, on a commencé à sortir de terre le projet de data chez Meet My Mama. Et on prend toute aide est bonne à prendre parce qu'on n'est pas spécialiste de la data. Par contre, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de data en fait et qu'il fallait organiser la data, la valoriser et qu'elle était essentielle pour valider nos process de décision et créer des produits, tu vois. Et donc du coup, il y a un travail, mais on a un travail énorme d'organisation de la data.
D'accord, je serais ravi de donner d'aider un petit peu si je peux. Là, on est en pleine période de Covid. C'est quoi l'impact que ça a sur votre business? Bah, j'imagine que tu m'as dit tout à l'heure, hein, vous êtes bloqué, totalement bloqué quasiment, parce que beaucoup de business sont fermés. Et puis, en termes de restrictions, c'est pas possible de pouvoir travailler. Du coup, vous êtes à l'arrêt total?
On n'est pas à l'arrêt total. Le traiteur est à l'arrêt. Était à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire, mais depuis une quinzaine de jours.
Donc, au moment où on part, on est le 6 mai.
Ouais, le 6 mai, donc c'est pour le préciser, on a lancé la livraison de repas pour les plus démunis. Donc, tu vois, ça, c'est le traiteur, il opère comme ça actuellement. Donc, ça, c'est la seule activité qu'on a et sur la partie traiteur. Mais tout le reste de l'écosystème continue et encore plus qu'avant. C'est-à-dire que en cette période de Covid, on a accompagné les mamas parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui étaient isolés, qui ne comprenaient pas nécessairement ce qui se passait. Donc, on les a accompagnés aussi pour obtenir certaines aides. Pour certaines, on s'est assuré qu'elles aient bien un toit et un revenu pour faire face à la crise. C'est tout bête la manière dont je le dis, mais c'était essentiel parce qu'on touche quand même des publics qui sont parfois en grande situation de précarité. On a continué notre formation et on a complètement digitalisé la formation. Donc, on a profité de cette crise pour tout digitaliser. Donc, les mamas, elles ont une petite dizaine d'heures de formation chaque semaine en ligne et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est principalement les activités qu'on continue.
D'accord. Vous leur enseignez quoi en ligne du coup?
Alors, enseigne tout ce qu'on avait prévu dans la même académie. Donc, il y a des modules qui sont liés à l'entrepreneuriat. Donc, là, ils ont eu une première introduction au métier d'entrepreneur et notamment à la raison d'être, pourquoi elles entreprennent. Là, on va enchaîner sur des modules qui sont liés à la gestion. En gros, c'est quoi la compta, c'est quoi, comment je pilote mon entreprise, quels outils dont j'ai besoin, quels sont les indicateurs que je dois regarder. On va faire de la communication. Ensuite, elles ont une formation métier. Donc là, en ligne, on les a formées aux principes généraux de l'hygiène sécurité alimentaire. Avant de rentrer dans le plus spécifique, elles ont des formations en ligne. Et ça, c'est pas facile aux techniques de cuisine. Donc, on a une formatrice qui donne en ligne des exercices, etc. Et elles ont aussi des formations toujours au développement personnel, à la confiance en soi. Et en plus, on organise des ateliers de partage entre des mamas qui sont là depuis le début, sinon depuis un ou deux ans, qui font des retours d'expérience aux mamas qui sont en formation. Donc voilà un peu comment ça s'organise.
Tu fais partie de ce temps disponible.
Mais tu sais, dans chaque mal, il se cache un grand bien. Et c'est comme ça que nous, on voit les choses. Et c'est vrai que c'est pas simple, hein, et que ça a mis en grand danger notre activité, parce que là j'ai raconté toutes les belles choses de Meet My Mama, mais il y a beaucoup de galères, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est encore fragile. Et cette crise elle a encore plus fragilisé l'écosystème. Mais Alhamdoulilah, je suis hyper fier des équipes et des mamas, parce qu'elles sont hyper
résistantes. Ça l'a fragilisé, mais d'un côté la nourriture sera toujours là, donc quelle que soit la crise, les gens finiront par remanger un moment ou un autre, donc c'est clair, c'est ce qui est bien. On arrive à la fin du podcast, juste quelques petites questions pour terminer. Tu as pu interagir avec beaucoup de mamas, dont beaucoup issues de la culture ou qui sont musulmanes elles-mêmes. D'après ce que tu as pu voir, Quelles sont leurs plus grandes forces et leurs plus grandes faiblesses?
Leur plus grande force qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la résilience. Et je ne le dis pas parce que c'est un mot qui buzz beaucoup en ce moment. Elles ont des parcours de vie hyper difficiles pour certaines. Elles ont une capacité à rebondir et à rebondir avec dignité par le haut. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. Donc ça, c'est une première qualité, la résilience, la résistance. Elles sont, je trouve, d'une grande, elles donnent beaucoup d'amour. Et ça, c'est aussi, et je pense que c'est, l'amour est quelque chose que la religion musulmane porte merveilleusement. Et je pense que elles sont clairement alignées avec ces valeurs d'amour. C'est-à-dire que je donne avant de recevoir. Et la générosité est sous-jacente à cet amour-là. Donc vraiment, la résilience, de l'amour, de la détermination, c'est des lionnes. Mais c'est des lionnes parce qu'elles ont un parcours de vie difficile et elles savent ce qu'elles veulent. Et elles sont de la détermination, c'est nécessaire pour elles parce que souvent, leur foyer dépend d'elles. Donc, quand elles se lancent dans quelque chose, elles sont déterminées et conquérantes. Donc ça, c'est les trois principales qualités parmi tant d'autres que j'ai pu voir. Après, tu posais la question aussi des points d'amélioration un peu.
Et des faiblesses.
Je pense que je vais un peu te paraphraser, c'est le manque de confiance en soi. Et ça, je pense que c'est très lié au fait qu'on a manqué ou on manque encore de rôle modèle. Et c'est pour ça que nous, on a initié Meet My Mama, parce qu'on voit en ces femmes-là des rôles modèles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que celles qu'on a formées, qui ont lancé leur activité pour qu'ils ça roule et qui derrière prennent la parole, parce qu'on a des mamas de confession musulmane, mais qui prennent la parole, certaines sont voilées, d'autres non, etc. Mais pour une autre maman qui ne pensait pas pouvoir vivre de sa passion, elle voit un modèle, elle voit quelqu'un qui a déjà tracé la route. Et ça te donne une énergie qui est quand même dingue. Et donc vraiment, c'est un enjeu pour nous majeur, la confiance en soi chez Meet My Mama. On veut réussir à donner le pouvoir et l'énergie à toutes ces femmes-là, de pouvoir gagner confiance en elles en ayant des rôles modèles, des gens qui ont tracé la voie avant elle. Voilà.
Oui. D'accord, super. Du coup, pour terminer, on a fait un peu le tour des questions. Je te remercie beaucoup. Vous avez du coup un site internet où on peut venir.
Alors, il y a internet meetmymama.com. Les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, ouais. Twitter.
Les photos, c'est obligatoire. Ouais.
Donc, on est un peu partout. Donc,
on peut vous suivre dessus.
Envie de nous suivre avec plaisir.
Je vais attendre le tour avant de rappeler, sinon ça va me donner trop envie.
Ouais. Je voudrais avoir des questions, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Le mail contact qu'il y a sur le site internet, il arrive directement chez Daniel Oubna et moi. Donc, ne pas hésiter. Et moi, c'est pareil, hein, je mets mon adresse mail, hein, c'est youssef@meetmymama.com. Il ne faut pas hésiter à m'écrire. Et quand je peux aider, je le fais. Quand je ne peux pas, que Dieu me pardonne et que vous me pardonniez parce que je n'ai pas réponse à tout.
C'est clair. Bah, écoute, je mettrai ça en description, c'est super. Brotané, est-ce que tu as une ressource que tu recommandes qui, toi, t'a particulièrement marqué ou que tu aimes bien soit lire un livre, tu vois, ou une vidéo, quoi que ce soit? Je sais que vous avez sorti un bouquin chez Meet My Mama.
Ouais, il y a le.
C'est un livre de recettes.
Ouais, il y a le livre, bah évidemment, Les Mamas cuisinent le monde, qui est un livre qu'on a sorti l'année dernière avec Hachette, et qui justement est pour en savoir plus sur l'histoire des mamas, il y a les portraits d'une vingtaine de mamas et des recettes. Donc pour celles en plus, celles et ceux qui veulent cuisiner en ce moment, il y a des recettes qui sont inspirantes. Donc ça, c'est une première ressource. Après, il y a en termes de ressources, je dirais pour ceux qui veulent entreprendre, c'est de chercher le plus rapidement possible à se faire accompagner. Il y a des spécialistes aussi de l'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Nous, on en fait partie pour celles qui veulent se lancer dans la food. Ne pas hésiter à venir nous voir et à frapper à notre porte. Et pour celles et ceux qui ne sont pas nécessairement dans la food, il y a plein de structures et justement de ressources qui peuvent permettre à un entrepreneur de s'améliorer, mais aussi de faire grandir son projet.
D'accord, super. Mais écoute, Youssef, je te remercie pour ton partage. C'était très enrichissant. Je te souhaite un bon courage et une bonne fin de Ramadan, Inch'Allah. Et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.